Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue sur Le Gratin. Avant de commencer et de passer à mon invité du jour, aujourd'hui j'ai quelques petits détails pratiques, un peu d'intendance donc, que je voulais voir avec vous, trois points tout simplement. Et si ça vous gonfle évidemment, vous pouvez déjà passer à la suite, ça ne prendra qu'à peu près une minute. Alors déjà, premier point pour ceux qui sont ici pour la première fois, bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Et pour vous expliquer le concept du gratin, à chaque épisode, vous allez découvrir une conversation avec une personnalité remarquable pour parler de sa réussite et essayer de décrypter avec elle les clés de son succès. J'essaie d'avoir des invités très variés et dans des domaines d'activité vraiment différents pour que chaque épisode suscite de nouvelles réflexions. Avec mes invités, on évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, c'est qu'en une petite heure, vous puissiez retirer de ces mentors virtuels un maximum d'enseignements pour pouvoir ensuite les appliquer à vos propres projets. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est que de plus en plus de personnes, auditeurs ou marques d'ailleurs, me demandent si je souhaite faire de la pub sur le podcast. Certains me demandent même pourquoi j'en fais pas aujourd'hui. Et la réponse est la suivante, c'est qu'à ce stade, ce n'est pas ma priorité. J'ai un autre métier, j'ai cofondé la marque de joaillerie Gemio pour ceux qui ne le savent pas encore, et je m'y consacre à fond. Donc si un jour je décidais de faire de la pub avec le podcast, là serait vraiment uniquement parce que j'aurais envie de mettre en avant un produit ou une marque que j'aime, qui m'ont été utiles et que j'ai envie de vous partager tout simplement. J'aime assez l'idée d'ailleurs d'avoir une forte liberté sur ce podcast et de le faire vivre sans pub à ma manière. Mais comme vous en doutez, tout ceci prend quand même pas mal de temps et pas mal d'énergie, et que c'est un travail qui finalement à ce stade est 100% bénévole. Eh bien, si vous voulez le soutenir, si vous voulez participer, le meilleur moyen de le faire et de contribuer à votre manière, c'est simplement de vous abonner sur iTunes ou sur SoundCloud et de laisser un avis qui donnera au gratin encore plus de visibilité. C'est bête à dire, mais ça m'aide beaucoup et c'est vraiment ça qui va faire la différence pour le podcast. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, ensuite je passe promis à l'interview, bonne résolution 2019 oblige, je compte lancer d'ici peu, je ne sais pas exactement quand, une mini newsletter pour vous nourrir en plus du podcast. Ça sera une newsletter très courte parce que vous avez autre chose à faire et qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur le web, mais je voulais quand même vous apporter quelque chose en plus du podcast, un format différent, beaucoup plus court, des livres à lire, des réflexions, des citations, des films à voir, des documentaires, que sais-je. Bref, une petite dose d'inspiration rapide et efficace, inspirée de mes réflexions personnelles, mais aussi de mes conversations avec tous ces invités formidables. Donc voilà, pour être tenu au courant de tout ça, parce que je ne sais pas exactement quand je vais le mettre en place, vous pouvez déjà me suivre sur Instagram au compte Pelaigneau, P-L-A-I-G-N-E-A-U, parce que j'indiquerai quand ça sortira, quand ça sera disponible dessus. Et sinon, vous pouvez aussi déjà vous abonner au blog du podcast, qui est en lien dans le descriptif de l'épisode, parce que les newsletters ne vont pas tarder à sortir, et ça sera via ce biais. Donc voilà, trêve de bavardage, merci pour votre patience. Aujourd'hui, mon invité du jour est Mathilde Lacombe, fondatrice de Jolibox, rachetée en 2012 par Birchbox, que vous connaissez certainement. Également créatrice du blog La Vie en Blonde, nouvellement nommée mathildelacombe.com. Auteur du livre Une question d'équilibre sur la gestion de vie personnelle et professionnelle quand on construit une famille. Et depuis peu, également cofondatrice de la nouvelle marque de soins M. Bref, on n'arrête pas Mathilde. Et pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, vous pourrez la suivre et lui faire même un petit coucou si l'épisode vous a plu sur Instagram, tout simplement à Mathilde Lacombe, tout attaché. Je mettrai ça en descriptif dans les notes de l'épisode. c'était pas facile pour moi d'interviewer Mathilde. Surtout, c'était pas facile de lui faire dire des choses nouvelles, car non seulement elle a déjà elle-même publié énormément de contenu, mais aussi a été, il faut le dire, beaucoup interviewée. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime pas faire comme tout le monde, donc j'ai pris le parti de faire différemment, justement, et de commencer par parler de M, sa nouvelle aventure, et non pas de Birchbox uniquement. D'ailleurs, au-delà du succès de Birchbox, dont on a déjà souvent parlé et fort bien, parfois même sur d'autres podcasts que je vous invite à écouter, comme par exemple le podcast Génération XX, où Mathilde a été interviewée et qui entre pas mal dans le détail d'ailleurs de son travail chez Birchbox, moi ce qui m'intéressait, c'était finalement de comprendre l'après. L'après d'une telle aventure, d'un tel succès. Comment on passe à autre chose? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment on définit le nouveau projet? Combien de temps on attend? Est-ce qu'on a envie de faire un nouveau projet? Et qu'est-ce qui se passe concrètement après le rachat de sa boîte, de son bébé, comme le dit très bien Mathilde, par une entreprise comme Birchbox? Quels enseignements aussi on tire de sa précédente expérience? Est-ce que la pression est plus forte? Bref, tout un set de questions qui, je trouve, sont assez peu abordées et qui se posent quand on se lance dans un nouveau projet après avoir terminé une première aventure. Je suis ravie parce que Mathilde s'est montrée d'une grande transparence avec moi et nous a livré, je crois, des choses qu'elle n'avait jamais dites à l'antenne auparavant. Donc en plus de cette prise de recul sur le passé, on a aussi parlé de plein d'autres choses, je vous rassure, et notamment de ses conseils pour bien s'associer, une question qui revient assez souvent et que beaucoup d'auditeurs se posent. On a parlé aussi de comment répartir les rôles intelligemment entre cofondateurs. On a parlé d'ambition et de son envie de ne pas être mise dans une case, de se prouver à elle-même qu'elle peut encore se renouveler, se dépasser. On a parlé de ses outils de productivité, d'instinct et d'apprendre à l'écouter. On a parlé aussi des podcasts qu'elle écoute et ce qu'ils lui apportent au quotidien, de son choix de vivre à Reims et de garder une organisation de vie professionnelle et personnelle qui est très stricte. On a appris du coup aussi à se dire non et pourquoi c'est aussi important de ne pas être toujours une bonne élève et vraiment encore de plein d'autres choses. Vous allez voir que malgré sa médiatisation, Mathilde s'est restée elle-même, qu'elle ne prend jamais les choses pour acquises et malgré une apparente réserve, nous livre des leçons d'une belle profondeur. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Lacombe. Salut Mathilde et bienvenue sur Le Gratin.
Bonjour Pauline, merci.
Bah merci à toi d'être venue. Ça me fait d'autant plus plaisir qu'on s'est un peu couru après. En plus, ça n'a pas été facile. Nos emplois du temps ne sont pas ultra compatibles. Ouais. On travaille beaucoup toutes les deux. Mais je suis d'autant plus contente de t'avoir. Et figure-toi qu'en plus, je voulais te le dire quand même, ton nom est probablement l'un des noms qui a été le plus cité quand je demandais à chaque fois à mes followers ou aux personnes voilà, qui écoutent le podcast, qui souhaitaient avoir sur le podcast. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir. Et du coup, pour commencer, si ça te va, on va parler un peu de tout ce que tu as fait, donc le livre, Birchbox, etc. Mais je voulais quand même commencer par parler de ta nouvelle aventure, donc de M, parce que je trouve ça hyper intéressant et que je trouve, en plus, pour avoir interviewé quand même pas mal d'entrepreneurs, moi, j'ai eu assez peu l'occasion de poser des questions sur des personnes qui ont fait une première aventure et qui sont en train de se lancer dans leur deuxième. Donc, je trouve ça hyper intéressant justement de parler des enseignements, de ce que tu as pu apprendre. On en parlait juste avant de commencer, de ta première expérience et ce que tu mets en pratique justement sur la deuxième. Et du coup, si ça te va, déjà, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quand même ce qu'est M?
Oui. Alors, M, c'est une marque de soins. Qui a une approche plutôt holistique, on va dire, donc c'est-à-dire que, et c'est une marque qui est née de mes propres problèmes de peau, et donc qui va venir traiter la peau par l'intérieur. Donc nos premiers produits, c'est des compléments alimentaires.
D'accord.
Voilà, donc c'est vrai que c'est une approche différente de simplement des crèmes, etc. Et vraiment de dire, justement, ça sert à rien en fait de vous mettre autant de produits si la base n'est pas saine. Donc voilà, donc c'est une approche qui est assez différente pour le marché français, mais écoute, ça démarre plutôt bien.
Génial. Et alors, ma première question du coup, c'est avec un peu de recul, est-ce que tu peux me dire quels sont les grands enseignements que tu as tirés de toutes tes expériences? Donc sincèrement, ça peut être tout autant Birchbox que ton blog, que aussi ton livre, je ne sais pas. Mais quels sont les grands enseignements que tu as tirés de tout ce que tu as fait et que tu as voulu mettre en pratique avec M quand tu t'es lancée? Est-ce que tu te l'es un peu formalisé?
Alors, tu vois, c'est intéressant. Je suis pas sûre de me l'être vraiment formalisée, mais dès que je prends un tout petit peu de recul, que je regarde effectivement ce que j'ai fait, je pense que ce qui caractérise, tout ce que j'ai pu faire, ça, c'est beaucoup l'instinct et finalement faire les choses comme j'en ai envie et aussi au moment où j'en ai envie. Et finalement, moi, j'ai beaucoup de mal à faire semblant, et donc c'est pareil que ce soit avec des gens ou avec une activité. En fait, quand je ne trouve pas de plaisir quand j'ai plus envie. J'ai vraiment du mal en fait à me forcer, etc. Et donc voilà, donc j'ai besoin en fait de faire des choses qui me plaisent en fait.
Ça marche. Et est-ce que tu te rappelles, j'imagine, tu te rappelles du lancement de Birchbox, qui était donc ton autre grande aventure. Est-ce que tu peux me dire en quoi, là, tu as procédé quand même différemment? Alors, je sais que déjà, tu as moins d'associés, que vous avez été vite, mais je sais que c'est avec Birchbox, vous avez été très vite. Toujours pareil, en fait, une fois de plus, je trouve que c'est ultra intéressant de se dire que tu avais cette expérience qui a été quand même un très beau succès. Et du coup, maintenant, en fait, tu es en train de revivre un autre succès. Mais donc, forcément, ça doit être un peu stressant aussi. Et tu as dû te dire, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je peux le refaire pour que ça fonctionne? Et donc, est-ce que tu as fait des choses au contraire à l'identique parce que tu sais que ça a très bien marché? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des choses où tu t'es dit, tiens, ça, je vais faire un petit peu différemment?
Ouais. Alors, je pense que c'est intéressant parce que tu parles de succès. Et pour moi, le succès, il faut vraiment aussi le qualifier. Et un succès de l'extérieur, enfin, quelque chose qu'on voit. Et finalement, le succès personnel, la façon dont on le ressent, c'est aussi quelque chose de différent. Ce qui est très différent par rapport au tout début de Jollybox, c'est qu'effectivement, on avait 22 ans, pas d'enfants, pas de prêt immobilier, pas de stress particulier. Donc, on est allé très vite, on était plus nombreux. Voilà, j'ai envie de dire, il y avait un peu l'innocence de la jeunesse, tu vois.
La conscience.
Voilà, non, mais c'est ça, l'inconscience, un petit peu, tu te poses pas trop de questions. J'avoue que M, ça a été un process de réflexion beaucoup plus long. Ça fait, j'y ai réfléchi pendant 2 ans vraiment avant de voir ce qu'on voit aujourd'hui, de le lancer. Parce que maintenant, j'ai des enfants, j'ai acheté une maison. Enfin, c'est des trucs très concrets du quotidien qui sont au final très stressants parce qu'on se dit, j'ai là, pour le coup, j'ai pas le droit de me louper parce que j'ai une famille qui compte sur moi, notamment. Autant, souvent, on m'a dit, mais t'as pas peur de pas rencontrer le même succès qu'avec Jollybox. Ça, c'était pas du tout une crainte parce que, pour le coup, comme ce que je te disais juste avant, je crois que je fais les choses vraiment pour moi et pour me faire plaisir. Je savais que j'étais arrivée à la fin de quelque chose et je savais que M, ça me correspond pleinement aujourd'hui. Et que donc finalement, même si le succès n'était pas au rendez-vous tout de suite de la même façon, ça me dérangeait pas non plus.
Ouais, je comprends. Et du coup, en fait, concrètement, justement avec cette pression d'avoir quand même 3 enfants, d'être mariée, d'avoir cette maison, comme tu dis, donc t'as mis 2 ans quand même à te décider.
Oui, j'ai mis 2 ans. Je pense que j'avais besoin. En fait, j'avais besoin de quitter Birchbox aussi en tournant la page de manière que ce soit assez clair, sain.
Et clean.
Voilà, clean, exactement. Je voulais pas qu'il y ait un flou, un entre-deux, garder un pied dans la boîte et tout. Donc pour moi, c'était vraiment important de passer à autre chose. Et donc pendant ces 2 ans, il s'est passé énormément de choses chez Birchbox, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et c'est vrai que il y avait des moments d'attente, de doute. On attendait qu'il se passe des choses qui ne se sont pas forcément passées. Donc, c'est vrai qu'en fait, un mois, je me disais, bon, je reste, j'attends. L'autre mois, je disais, ah non, bon, c'est bon, je passe à autre chose. Et donc, et tout en à côté, dans ma tête, en mûrissant cet autre projet. Et voilà, je pense que j'avais besoin de ce temps de réflexion tout en essayant de pas trop en parler autour de moi parce que, voilà, pour pas non plus que ça commence à être trop compliqué, mais c'est vrai que j'en ai énormément parlé avec mon mari, par exemple, parce que j'avais aussi besoin d'avoir une sorte de validation et de savoir que si je prenais ce risque, parce que c'est un risque, il me suivait, il était confiant. Et je pense que c'était le temps nécessaire. 2 ans comme ça paraît long, et finalement, je trouve que moi, ça s'est fait assez naturellement, et le jour où j'ai dit je pars, je savais que j'étais prête et que voilà, j'avais plus rien à apporter entre guillemets à Birchbox, que j'avais donné tout ce que j'avais à donner, mais que par contre voilà, je partais heureuse et très fière de ce qu'on a fait.
Bien sûr. Et dans ces 2 ans, dis-moi bien sûr si tu veux me répondre, mais donc tu mûrissais, ça je le comprends complètement. Et en effet, moi je peux difficilement imaginer ce que ça serait de quitter ma boîte, mais en fait, quand tu l'as créé, que c'est ton bébé, etc., c'est vrai, même si vous vous étiez fait racheter, c'est hyper dur quand même, et puis t'as pas envie de le faire n'importe comment. Mais au-delà de ça, est-ce que tu trouvais le temps et l'énergie de vraiment concrètement lancer quand même le projet M, c'est-à-dire que j'imagine que vous avez quand même dû concevoir les produits, faire du développement produit, etc. Est-ce que ça, c'est une phase sur laquelle quand même, au-delà de la réflexion, tu commençais vraiment à agir, entre guillemets ?
Alors ça, c'est une phase que j'ai plutôt amorcée vraiment quand j'ai quitté la boîte. Enfin, en gros, j'avais tellement travaillé en amont ma vision, produit, mon identité. Je savais ce que je voulais. Donc finalement, ça a été... j'avais bien sûr déjà rencontré des labos, déjà rencontré la micronutritionniste avec qui on bosse parce que c'est elle qui me suit depuis plusieurs années. Donc en fait, j'avais déjà un peu toutes mes cartes qui étaient alignées. Et puis après, j'avais plus qu'à appuyer sur les boutons et tout activer. Donc j'avoue que... encore une fois, dans le côté faire les choses de manière clean, j'ai quand même attendu d'être officiellement partie pour ensuite vraiment tout enclencher, faire les rendez-vous. Mais ça m'a permis d'être assez rapide, en fait. Parce que pour le coup, j'ai pas quitté Birchbox en me disant « Bon, ok, maintenant, page blanche, qu'est-ce que je fais ? C'est quoi mon idée ?» Tout. Non, tout ça, en fait, j'avais déjà fait en amont, j'avais déjà fait mes PowerPoints. Donc voilà, ça s'est fait... tu vois, je bossais dessus, je me souviens, dans le train, le matin, le soir, vu que j'ai des trajets, c'était mon petit sas un peu de décompression. Ça m'a fait du bien. Et puis, je pense que Birchbox, encore une fois, faut aussi le rappeler, tu l'as dit, donc il y a eu un rachat. Mmh. Les équipes ont beaucoup grossi. Et donc, je pense que vraiment, j'étais arrivée à un stade où je voyais plus comment je pouvais, en fait, moi, me développer et ce que je pouvais apporter de plus à cette boîte. Et je pense que c'était très sain, en fait, finalement, et même pour mes équipes. Il y a un moment, ça sert à rien de... C'est pas parce que c'est toi qui étais là à l'origine que tu dois rester là indéfiniment et que c'est aussi toujours ça que j'ai voulu faire. On a toujours recruté des personnes de talent et qui, au contraire, étaient plus que ravies, en fait, de pouvoir à leur tour évoluer et prendre plus de place. Donc finalement, je trouve que c'était très très logique.
Ouais, non, mais complètement, complètement. Une question aussi quand même sur ce lancement de M. Du coup, quand tu te relances, donc là, tu as un associé, je crois, c'est ça ?
Donc j'ai François et qui était mon ancien associé chez Joybox.
Génial. Du coup, ça devait bien marcher entre vous. Quelles sont un peu les premières choses que tu fais ? Est-ce que tu peux me redécrire cette deuxième expérience ? Donc cette fois, comment tu te lances ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc tu as quand même dans ta tête un peu le produit, tu sais ce que tu veux faire, tu as ta vision. Mais concrètement, le jour justement où tu dis à Birchbox, ouais. Ok, c'est fini, merci, au revoir, c'était formidable. C'est quoi les premières étapes pour toi ?
Très concrètement, les premières étapes, il y a tout ce qui est très administratif aussi, tu vois que j'avais un peu oublié, mais tout ce qui est création de la société, les statuts, achat des noms de domaine, dépôt des marques, etc. Donc voilà,
c'est, tout ça, tu disais t'attends, c'est dur ou c'est excitant ? Parce que du coup, j'essaye de me projeter aussi.
Non, j'étais très excitée en fait.
C'est vrai.
Parce que je pense que je mourais d'envie en fait de retrouver cette sensation qu'on avait eu 8 ans avant, parce qu'il y a quand même une excitation dingue en fait de dire c'est génial, je relance quelque chose. Il y a certains stress, mais qui en fait je trouve est un bon stress en fait.
Donc de recréer des petits miracles et puis de tout, tout
même
à partir
sans
de
savoir
rien.
Ce qui t'attend, mais c'est juste c'est vraiment une impression, tu vois, j'avais l'impression de me sentir légère en fait et de me retrouver un peu. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Toutes ces démarches administratives et puis après très concrètement j'ai un peu redémarré à zéro les labos, j'ai tout bêtement fait une liste Google, j'en ai appelé plein, j'en ai rencontré plein et après ce que je disais, je fonctionne énormément au feeling, donc j'ai fait en fonction de ceux qui comprenaient le mieux ce que j'avais envie de faire. Donc au final c'était très simple. Après là je pense où j'ai eu la chance et je me suis rendu compte, c'est que des personnes que j'ai contactées sur LinkedIn ou par mail comme ça avec le formulaire contact, je sais que mon nom a fait que forcément les gens allaient taper sur Google, ils voyaient ce que j'avais avant, ce que j'avais fait avant, et donc je suis pas dupe, je sais que quand je leur dis je voudrais créer une marque, ils se disent pas c'est qui cette petite qui sort de nulle part. Donc je sais que ça a pu faire accélérer des choses. Mais il y avait vraiment cette super sensation de tout redécouvrir, redémarrer à zéro. Et puis surtout, comme tu le disais, on n'est que deux sur M. Et ça, c'était une vraie volonté pour moi d'avoir une petite équipe.
J'allais te demander, parce que c'est vrai que Birchbox, un peu de notoriété publique, si je puis dire, vous étiez, je crois, cinq associés
ouais.
Ce qui est quand même beaucoup. Après, vous étiez super complémentaires et voilà. Mais du coup, là, vous êtes que deux.
Ouais, c'était un vrai choix.
Et donc, tu dis, c'est un choix. Ouais. Et pourquoi ça, si je puis me permettre ?
Parce que ça a super bien marché. On était très complémentaires. C'est quand même être cinq personnes sur un projet, c'est forcément faire aussi des concessions. C'est au bout d'un moment, quand la boîte grandit, c'est adopter une vision commune qui est pas forcément la tienne. Et là, je sais que j'avais envie de quelque chose de plus petit et de mieux maîtriser les choses, parce que une des choses que j'ai un peu regretté tout à l'heure, tu me posais un peu la question de ce que j'ai appris, ou pour le coup, ce que j'ai regretté, c'est d'avoir peut-être été un peu mise dans une case. En fait, quand t'es 5 associés, forcément, tu te dispatches.
Puis t'étais la seule fille, t'étais la seule qui s'y connaît aussi dans la beauté.
Mais sauf que tu te dispatches les fonctions. Par exemple, au bout d'un moment, moi, comme effectivement j'étais plus l'image, la communauté, la com, etc. Par contre, tout ce qui était chiffres, business plan, en fait, je mettais pas tellement le nez dedans.
Ouais.
Mais en fait, plus la boîte grandit, plus ça devient très frustrant. Et alors, je sais, j'ai toujours dit, c'est pas du tout, je suis pas du tout scientifique ni mathématique, j'aime pas ça. Mais là, pour M, pour moi, c'était hyper important de me mettre dedans, de comprendre, de passer 2 heures avec le comptable qui m'explique telle ligne de business plan, et je m'en fiche. En fait, je pose et repose des questions parce que pour le coup, je veux pas reproduire cette erreur de lâcher quelque chose sous prétexte que c'est pas mon domaine d'expertise. Je pense que c'est nous, les femmes, on a plus tendance à justement à manquer de confiance en nous. Moi, clairement, à 22 ans, c'était un manque de confiance en moi de me dire j'ose pas.
22 ans, tu te rends compte.
Mais ce qui fait que voilà, avec le recul, le fait d'être que deux fait que forcément t'es obligé de faire des choses que tu ne maîtrises pas, mais j'apprécie, tu vois.
Ouais, je rapprends surtout, des choses. C'est comme ça que t'apprends des choses.
Exactement.
Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, en plus, dans le domaine, en l'occurrence, de Birchbox et de la com et de la communauté, comme tu dis, je dis pas que t'as plus rien à apprendre, mais t'as quand même, je pense, que tu maîtrises assez bien le sujet. Donc, faut aussi maintenant que t'ailles chercher ailleurs
d'autres choses
dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais. Ça marche, c'est génial. J'en profite pour te parler justement un peu de ton associé. Il me semble que ton associé, c'est lui qui aussi était en charge plus de la partie graphique, identité visuelle.
Oui.
Donc en plus, par rapport à ce que tu me dis, je rebondis dessus, vous n'avez pas du tout tous les deux des profils,
pas
entre guillemets, business, matheux, etc. Et vous avez un peu choisi une répartition des rôles, ou comment ça s'est passé
Alors du coup, avec François, on s'est posé la question de est-ce qu'effectivement, on a des profils tous les deux très créa. Donc voilà, pas du tout maths ou finances. Donc on s'est posé la question de est-ce qu'on a besoin d'une troisième personne, et on a rencontré des personnes et tout, et en fait on a eu ce sentiment de se dire, en fait, ce projet, c'est notre bébé, on sait ce qu'on a envie de faire, et avec l'expérience qu'on a, on sait qu'on est capable en fait de, surtout pour, on est dans la cosmétique, on est dans de l'émotion, on est dans on sait en fait qu'on a les capacités pour faire ce dont on a envie de faire. Donc voilà, on a pris le parti de pas de pas avoir un profil financier qui nous rejoigne. Je pense qu'avec François, la façon dont on travaille, on se connaît super bien, et c'est ça qui est génial, c'est que tout est très fluide, et même si on bosse à distance, on bosse hyper rapidement, on se connaît par cœur, on sait les points forts de l'autre, les points faibles, etc. Et on s'est réparti les tâches de manière assez naturelle. Le fait d'être que deux, finalement, pour le moment, on est assez en binôme sur tout. Enfin, donc c'est très agréable en fait sur par exemple la construction de l'image de marque. J'avais une idée très précise, mais ce que j'adore, c'est qu'en fait François il va lui donner vie. Je vais lui montrer une image ou quelque chose qui m'inspire, il va rendre ça concret. Pour le moment ça fonctionne comme ça. Après, François, il est avec toute l'expérience qu'il a eu chez Birchbox, il est très très bon dans tout ce qui est logistique, packaging.
D'accord.
Il y a des choses qui sont, nous, très importantes pour notre business. Donc ça, c'est super. On a gagné énormément de temps là-dessus. On connaissait déjà notre plateforme logistique. On connaissait déjà nos fournisseurs de packaging. Donc voilà, c'est des choses où, certes, c'est une nouvelle boîte, mais on redémarrait pas complètement à zéro parce qu'on a appris, on a des automatismes, on a des choses où on sait ce qu'il faut faire. On sait aller à l'essentiel pour que ça aille vite, pour que ça déroule. Donc ça, c'est super. En fait, c'est très agréable de travailler avec lui.
Génial. Et justement, je continue un peu parce que sur ce sujet, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont des apprentis entrepreneurs ou entrepreneurs. Pas que, mais quand même, j'en ai pas mal. Est-ce que tu aurais toi, un conseil à donner là de par rapport à tout ce que tu as vécu, notamment donc avec Birchbox et là maintenant avec le relancement de M. C'est difficile comme question, hein, je sais, mais un conseil à donner parce que par exemple tu vois une erreur assez fréquemment chez des jeunes qui se lancent ou que toi-même tu as fait cette erreur. Donc bah, peut-être par exemple sur les associés, ça peut être sur le fait de prendre plus son temps, peut-être aussi.
Alors. Un conseil, c'est toujours dur parce que tu dis quelque chose qui a marché pour toi ne marchera peut-être pas forcément pour quelqu'un. Souvent, ce que je dis, c'est de... Alors, ça peut paraître très bateau, mais c'est vraiment de bien s'entourer parce que je sais que souvent, moi, je rencontre souvent des jeunes entrepreneurs et que parfois, il y en a qui sont tout seuls et c'est vrai que c'est très... Ça peut être très angoissant. On a l'impression de se jeter dans une sorte de précipice. On ne sait pas ce qui nous attend. J'avoue que le fait d'être avec quelqu'un, ça change quand même... les choses, le quotidien. Après, s'entourer, mais ça ne veut pas forcément dire avoir besoin de 5 associés. Ça veut s'entourer, ça veut et c'est un peu nous, ce qu'on a choisi de faire avec François. Ça ne veut pas forcément dire embaucher tout de suite beaucoup de personnes. Nous, par exemple, notre parti pris, ça a été plutôt on travaille avec beaucoup de freelance. C'est d'aller chercher des talents. Où on sait que c'est des personnes qui sont très bonnes dans ce qu'elles font, mais c'est pas pour autant qu'on a besoin de les intégrer plein temps dans l'équipe. Donc oui, il y a ce côté à la fois, je trouve, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, d'être capable de prendre son temps, de réfléchir son idée, et en même temps, il y a un moment, en fait, il faut y aller. Donc ça sert à rien de faire 25 000 PowerPoints. Il y a un moment, il faut agir, en fait. Et ça aide justement d'avoir... des personnes à côté qui peuvent aider à ce que les choses se fassent
Bien sûr.
Plus rapidement.
Et toi, en plus, maintenant, comme tu t'as lancé M avec, comme on le disait précédemment, 3 enfants et en plus, tu habites à Reims, donc tu fais des allers-retours très fréquemment à Paris, etc. C'est quand même assez différent comme situation de l'époque où tu as lancé Jolibox à l'époque, où c'était, tu avais 22 ans, tu n'étais pas mariée, tu n'avais pas d'enfants, tu n'avais pas de contraintes, entre guillemets. En plus, tu avais un job au L, donc mine de rien, tu étais quand même un peu sécure. J'imagine que tout ce que tu me décris là, le fait de prendre plus son temps, de choisir son associé, de faire les choses avec un peu plus d'intention aussi, c'est certainement lié peut-être aussi à ta vie personnelle qui a beaucoup changé. Et ça a été, c'est toujours intéressant pour moi, en fait, les processus de décision et un peu les réflexions qu'on se fait pour aider les personnes qui nous écoutent. Mais toi, en fait, est-ce que tu t'es dit consciemment, en fait, là, dans cette nouvelle aventure, je sais que je vais me remettre à fond, mais je sais que je pourrais bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 enfin, comme à l'époque, mais en fait, j'ai pas envie parce que j'ai mes enfants, j'ai ma famille, etc. Et du coup, il faut que j'organise mon temps différemment et cette boîte différemment. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ?
C'est quelque chose que je me suis dit. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec François, justement, parce que François, lui, par contre, il a une vie très différente de la mienne. Il habite à Paris, il a pas d'enfants. Donc, on a un rythme de vie qui est pas le même. Mais moi, ça faisait aussi partie de mes envies de nouvelles vies, de nouvelles boîtes. C'était aussi d'arriver à trouver ce fameux équilibre effectivement, j'ai 3 enfants et je pense que c'est très important, surtout pour les femmes entrepreneurs, de faire comprendre que c'est possible de créer sa boîte, d'avoir une famille à côté. Par contre, il faut savoir que ça va être très les frontières vont être très poreuses et que donc oui, ça empiète complètement sur la vie de famille, mais ça fait aussi partie de moi, en fait, le fait de bosser, d'être entrepreneur, j'adore ça. Donc je pense que je travaille à la maison, je travaille le soir une fois que mes enfants sont couchés, je pense que je fais les choses en fait de manière assez naturelle et que j'aime cette flexibilité de pouvoir aussi gérer mon temps comme je le veux. Et là, très clairement, j'ai dit à François, le lundi, le vendredi, pour le moment, j'ai envie de rester à Reims. Ça me permet d'emmener mes enfants à l'école. C'est des choses très basiques du quotidien, mais que j'arrivais plus à faire quand j'étais chez Birchbox. Et en fait, il y a un moment, c'est plus tenable quand, on veut tous bosser, je suis prête à bosser à fond et j'adore ça. Mais il y a un moment, il faut juste trouver quelque chose, on n'a qu'une vie. Et je trouve que, quand on devient maman, on s'en rend d'autant plus compte. En fait, tout le monde nous le dit, ça passe vite, etc. Mais c'est vrai que ça passe vite. Et donc, je trouve que, j'avais vraiment cette envie trouver quelque chose qui me redonne l'envie de travailler comme une dingue, mais à ma façon.
Oui, bien sûr. Et une autre question à ce sujet par rapport à l'équilibre, je sais qu'en plus c'est un sujet qui te tient à cœur, tu as quand même écrit un livre dessus. T'en as parlé, je pense, à ton mari avant de te lancer. Tu disais qu'en plus tu as testé, entre guillemets, un peu le projet avec lui. Mais aussi, est-ce qu'au niveau de l'organisation, le fait de se relancer dans une aventure, lui, je peux me mettre à sa place. Je me dis, ça a pu peut-être aussi lui faire peur, parce qu'il s'est dit, déjà, elle bossait beaucoup quand elle était chez Birchbox, mais alors là, si elle se relance, ça va être l'enfer. Est-ce que vous avez eu une conversation et qu'est-ce que vous êtes dit, quoi, concrètement?
Oui, ça faisait partie, moi, de mes angoisses. Je crois que la première angoisse était très concrètement financière. Mmh. Alors, on a la chance en France d'avoir le chômage. Donc ça, c'est quand même une grande chance pour les entrepreneurs. Quand on peut l'avoir, si on se dit, j'ai au moins 2 ans pour...
Oui, toi, t'avais fait une rupture conventionnelle, du coup.
Oui, exactement. J'ai eu la chance de pouvoir faire une rupture conventionnelle. Et donc ça, c'est vraiment une vraie sécurité.
C'est clair.
Mais c'est vrai que c'était concrètement ma première peur, parce que c'est moi qui fais vivre la famille et tout. Donc voilà, je me disais, j'ai pas le droit de me louper là-dessus. Et après, il y avait cette peur, effectivement, de me dire, on avait enfin trouvé notre équilibre. Enfin... Mmh. Enfin, voilà, je sais que
c'est
éphémère, mais voilà, on avait une sorte de routine qui roulait bien, et là je savais que c'était tout chamboulé, remettre en question. Et en même temps, c'est là où mon mari, il était super, il disait, certes, on a un équilibre, on a une super vie, mais en même temps, j'étais pas très heureuse, tu vois, donc, et je trouve que c'est dommage, en fait, à 30 ans, de se dire, tout roule bien, donc en fait on va garder ça. Et je me disais, en fait je vais m'encrouter, c'est pas possible. Et donc c'est là où ça a été chouette, parce qu'il m'a aussi beaucoup rassurée, je pense, en me disant on trouvera toujours une solution. Enfin voilà, lance-toi et puis on verra de toute façon. Donc ça, je pense que tu vois, ça m'a boosté, parce que c'est sûr que oui, l'équilibre là, il est un peu chamboulé, et en même temps, voilà, le fait d'être que avec François me permet aussi finalement d'être très flexible et de... Voilà, pour le moment, ça roule bien.
Génial. Bon, écoute, si ça te dérange pas, j'aimerais bien enchaîner un peu et parler de ton enfance. Mm-hmm. Je connais pas tellement les détails, donc je vais te poser quelques petites questions. Et si ça te va, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta vie avant La Vie en Blonde, avant Jolie Box, avant M? Comment était la petite Mathilde Lacombe? Où est-ce que tu es née déjà?
Je suis née à Aubervilliers.
D'accord,
donc, Aubervilliers. Région parisienne, ce qui fait que moi j'ai grandi Paris, région parisienne. Ouais. Je suis partie vivre à Reims au collège.
D'accord.
Parce que mon père a monté son agence d'architecture là-bas. Et quel enfant j'étais, alors bon, ça va être beaucoup des souvenirs de ce que tes parents te disent. Et c'est marrant, parce que je pense là, en étant devenue maman, et j'ai une fille notamment, et je sais que ma mère me dit beaucoup que ma fille me ressemble.
Quand t'étais petite, quoi.
Au-delà du physique, vraiment en termes de caractère. Et c'est vrai que je trouve beaucoup de points de ressemblance avec ma fille. J'étais une petite fille assez, pas autoritaire, mais assez déterminée plutôt.
D'accord.
Donc,
t'aurais des exemples? Qu'est-ce que ça signifie?
Ça peut être avec des choses d'enfant. Alors déjà, je suis l'aînée, donc je pense que peut-être je suis l'aînée de 4 enfants. Donc je pense que ça joue aussi dans un peu la construction de la façon dont on fait les choses, mais on est 4 enfants assez rapprochés, et donc rapidement aussi je devais soit ramener tout le monde de l'école, surveiller un petit peu les devoirs, enfin voilà.
Oui, t'avais déjà un peu un rôle de petite maman.
Exactement. tout en ayant une maman et enfin des parents très présents, mais voilà, j'avais déjà un petit peu ce rôle, voilà. Et donc quand je dis que j'étais très déterminée, c'est que ça pouvait aller du choix d'un vêtement ou d'une paire de chaussures ou de une activité à faire, ou voilà, si j'avais envie de faire quelque chose, il fallait que je le fasse et que j'y arrive. Et donc voilà, je me souviens même à l'école, dans les groupes d'amis, je suis exactement pareil aujourd'hui. J'ai jamais été trop enfin, c'est pas sociable, mais je suis pas très mondaine, etc. Donc c'était un peu pareil à l'école, tu vois, j'avais mon petit groupe vraiment proche, mais j'étais pas du genre à faire.
Oui, t'étais pas la fille populaire voilà, qui va aller taper ça. La discute à tout le monde.
Exactement. Je suis vraiment plutôt quelqu'un.
Souvent, je suis une introvertie qui aime les gens. Je sens que t'es un peu pareil.
Exactement. Mais c'est exactement ça parce que je suis à la fois très curieuse des gens. J'aime beaucoup rencontrer des gens, de découvrir des choses que je connais pas. Et en même temps, je pense que je suis aussi introvertie, timide. Parfois, ça peut passer pour une sorte de froideur, marque en fait pas du tout. Une grande sensible et tout. Et donc voilà, je pense qu'à l'école j'étais un côté très bon élève, tu vois, un peu pas première de classe, mais tu vois,
mais
toujours
tu faisais bien tes devoirs et tout, le très, côté voilà, petite fille
exactement,
parfaite,
qui veut rentrer dans les cases, qui veut, et ce qui fait que ça m'a aussi suivi une bonne partie des études, et souvent je mets mon mari en boîte parce que lui c'était plutôt le cancre de de l'école et tout, et donc je dis si on s'était rencontré à l'école je t'aurais détesté parce que j'avais vraiment ce côté j'aime bien faire plaisir aux gens, faire plaisir à mes parents, qu'ils soient fiers de moi. Donc,
Et t'as eu quand même du coup une crise d'adolescence entre guillemets, ou un moment de rébellion, je cherchais le mot.
Non, franchement, j'ai pas eu de. Ah oui, tu vois, il y a des trucs où forcément ça clashait un peu avec les parents. Sur, j'ai eu plein de choses. Tu vois, j'ai pas eu le droit d'aller en boîte de nuit avant les 18 ans, alors que j'avais des copines qui avaient le droit. Enfin, ce genre de choses. Mais c'est vrai que mes parents, ils ont jamais lâché. Avec le recul, je pense que maintenant que j'ai des enfants, je me dis, je serais sûrement pareil avec mes enfants. Mais non, j'ai pas du tout eu de rébellion, de crise, de mal-être. Je pense que ça tient aussi au fait qu'avec mes parents, justement, et mes frères et sœurs, parce que mes frères et sœurs aussi n'ont pas spécialement fait de crise, je pense qu'il y avait vraiment, ça tient au fait qu'il y avait une super communication entre nous et que je me suis jamais sentie mal à l'aise ou incomprise ou... Donc, écoute, je croise les doigts pour
bien.
Mes
peut-être
enfants.
Qu'un jour, peut-être qu'un jour, tu feras ta crise d'adolescence très tardive.
J'espère pas non plus, mais parfois, c'est ce qu'on dit. À la quarantaine, t'envoies tout. Tout voulait, j'espère pas.
Bon, en même temps, t'as déjà créé deux boîtes, donc c'est un peu des petites crises de rébellion. Quoi,
oui,
aussi.
Voilà, ouais, bon, peut-être.
Et justement, je pense que je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite?
Je voulais être journaliste. Plus précisément, j'écrivais toujours rédactrrice en chef du magazine Elle.
Voilà, donc c'est assez précis.
Ouais. Bah, tu vois, quand je te dis très déterminée, c'est vraiment, j'en démordais pas. C'était vraiment quelque chose qui me fascinait. Je pense que c'était un milieu que je connaissais pas. Enfin, mes parents, ma mère est orthophoniste, mon père est architecte, c'est pas du tout leur milieu, mais c'est quelque chose. J'ai toujours aimé. Je suis très littéraire, j'ai toujours aimé lire, etc. Donc voilà, je pense que.
Tu voulais faire ça. Et quand t'en discutais avec tes parents, ils étaient OK avec ça, justement? Ou eux, juste, c'était très éloigné, le journalisme? Ils disaient, non, mais pourquoi est-ce qu'elle veut être journaliste chez elle? Ça n'a pas de sens. Comment
non,
ça se passait?
Non, ils étaient très ouverts. Et c'est aussi pour ça que je te dis que je pense que j'ai pas fait de crise d'adolescence. C'est que mes parents ont toujours été très... que ce soit sur les études ou voilà, ils ont toujours été très ouverts. Et je pense qu'ils adorent tous les deux profondément leur métier. Et que je pense que c'est exactement ce qu'ils voulaient aussi pour leurs enfants. Que chacun trouve sa voie et fasse quelque chose qui lui plaise. Donc non, ils ont toujours été très ouverts. Et pareil, ils m'ont dit, bon, ça risque d'être dur parce qu'on connaît personne, mais si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tu trouveras un moyen d'y arriver. Donc non, ils ont été...
Et alors, quel a été le moyen qui t'a mis en place pour y arriver?
Alors, ça a été les stages, très concrètement. Hein, c'est... je pense que je le dis souvent, c'est la meilleure...
Mais c'est un super bon conseil, c'est parce qu'en France, mine de rien, on privilégie beaucoup les études, plus finalement que les stages, je trouve.
Ouais. C'est vrai que, en tout cas, je me suis toujours dit, et mes parents étaient un peu d'accord, mais pour le genre de métier que j'avais envie de faire, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que en le faisant, tu vois. C'est pas sur les bancs de l'école que tu vas apprendre ça. Donc, ça veut pas dire qu'il fallait pas faire d'études, hein. Mais je savais juste que les stages, c'était aussi un moyen concret de voir au quotidien à quoi ça ressemble. Parce qu'entre l'image que tu te fais d'un métier et la réalité, il y a un gap. Donc très concrètement, j'ai commencé par des stages. Forcément, pas du tout au L, hein. J'ai commencé à l'Union, donc qui est le magazine de Reims, de la région la Marne. Et donc, c'était plutôt du fait divers. Ils m'ont donné une petite Clio.
Et après,
je me baladais. à la campagne pour l'ouverture du club de danse country. Tu vois, c'était vraiment, j'allais faire une interview pour l'inauguration d'un nouveau cimetière. Enfin, tu vois, des trucs, mais rien à voir. Ouais. Mais alors déjà, moi, ça m'a un peu formée parce que je te disais tout à l'heure, je suis plutôt de nature introvertie et timide. Mmh. Donc là, on te donne tes clés, ta voiture, oui, et va voir un tel. Et donc, tu arrives avec ton petit micro, tu dois enregistrer les gens. Tu vois, déjà, ça m'a un peu poussée à, voilà, à m'exprimer, etc. Ouais. Et puis finalement, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, ça a duré 2 mois. Je me suis dit, bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais c'était une bonne expérience.
Tu préfères la mode plutôt que l'ouverture du cimetière de...
Voilà, c'était, bon, c'était, voilà, c'était, je me suis dit, je me vois pas faire ça, ouais, toute ma vie, mais en tout cas, c'était une super expérience. Et voilà, et puis après, petit à petit, j'ai fait encore d'autres stages. Et un jour, il y a eu une annonce pour un stage au magazine Elle. Et voilà, et là, ça a été là.
Comment t'as fait pour rentrer, du coup, parce que j'imagine que tout le monde, ouais, devait vouloir rentrer dans ce stage.
Oui, et ce stage très précisément, et surtout c'est très rare que le L poste des... En général, il, ouais, n'y a pas d'annonce de stage en fait pour le magazine, ouais, L, c'est surtout,
oui, ça
du
se
réseau
fait un peu par
en fait,
bouche à oreille,
de bouche à oreille, exactement. Et là, il y a eu 7 annonces qui étaient très précisément pour le service du prix d'électrice. Donc, il y a un prix qui est remis par l'électrice du L à des auteurs chaque année.
D'accord.
Et qui est le plus petit service du L, c'est vraiment géré par une femme. C'est un micro-bureau. Donc, il y a elle et en face, sa stagiaire. Et donc, à l'époque, j'étais en prépa et elle me l'a dit. Enfin, je lui ai demandé à l'entretien qu'est-ce qui a fait la différence,
ouais,
pourquoi moi, parce que je me doutais qu'il y avait une... Ouais. Et elle m'a dit que c'était ma lettre de motivation. Et après l'entretien, je pense qu'on avait bien accroché, mais ma lettre de motivation lui avait été sortie du lot parce que pour le coup, j'avais pas du tout fait une lettre de motivation standard. Je me suis dit, comme je suis littéraire, j'aime bien écrire et je postule un stage plutôt littéraire. Voilà, donc j'avais écrit une lettre de motivation qui était plutôt longue et qui était plutôt tournée sous la forme pas d'une petite nouvelle, mais voilà.
C'était, ah ouais. Tu t'étais donné du mal.
Voilà, je m'étais donné du mal, non, mais vraiment, en fait, je me suis dit, il faut que juste
non,
que je
compte,
le prouve.
Hein.
Oui, ça compte, parce que je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu reçois sans CV, sans lettre de motivation, tu vois que c'est du copier-coller, mmh, bon, bah, franchement...
Parfois, ils oublient de changer le nom de l'entreprise.
Non, mais c'est ça. Donc, écoute, ouais, en tout cas, je sais... voilà, bon, après, c'était il y a un moment, tu vois, c'était il y a...
Ouais.
Il y a 10-12 ans, mais...
petit message aux personnes qui nous écoutent, qui cherchent des stages, ça compte vraiment et ça marche vraiment,
ouais,
en fait, quand on se donne du mal. Et donc, tu rentres au L, et là, l'histoire qu'on connaît, mais quand même assez magique, est-ce que tu peux nous le raconter du début de Birchbox, enfin de Jolibox à l'époque, et de... donc, tu as ton job de rêve quand même, parce que tu es,
ouais,
stagiaire, et en plus après, donc, tu deviens pigiste,
ouais,
si je comprends bien. Donc, t'as un boulot, quoi, chez elle,
ouais,
ce qui était un peu le, pas encore rédac-chef, mais quand même,
ouais,
pas mal.
C'était en tout cas, d'avoir déjà un pied au L, c'était un rêve absolu. Et ce qui fait que aussi en parallèle, c'est à peu près à cette période où j'ai commencé à bloguer. Donc, voilà, les premiers blogs beauté, notamment.
C'était en quelle année, ça?
La vie en blonde, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à bloguer très tôt. Avant, j'avais un blog qui était un blog de cuisine, et qui s'est transformé en blog beauté. Mais donc, j'ai commencé à bloguer en 2007, 2008.
Ouais, donc c'est très tôt, c'est clair.
Ouais, c'était vraiment, franchement,
le tout début
ouais, des blogs. Il y avait très, très peu. Je me souviens, il y avait Didi, il y avait... Punky Bee, enfin,
ouais,
voilà, c'était les blogueuses que Balibule que j'adorais, mais voilà, il y en avait très très peu, donc aussi t'émergeais beaucoup plus facilement. Mm. Et donc effectivement, voilà, le L, j'ai fait plusieurs stages dans plusieurs services. Ensuite, mon dernier stage, on m'a proposé un poste de pigiste, donc là, voilà, c'était la joie. Et voilà, et j'avais mon blog à côté, et c'est via l'intermédiaire du blog que j'ai eu l'idée de Jolibox, parce que forcément avec mon blog, je suivais plein d'autres blogueuses américaines, anglaises, et c'est en voyant une youtubeuse américaine parler de Birchbox que je me suis dit, il y a quelque chose à faire, c'est génial comme idée. Donc voilà, c'est très clairement né comme ça, d'une envie de consommatrice, où je me suis dit c'est génial, j'ai envie d'avoir ça, je voudrais le même service en France. De prendre contact avec Birchbox pour me rendre compte qu'ils enverraient pas, ils avaient pas prévu de faire du shipping en Europe pour le moment. et de finalement me dire ben je suis peut-être la mieux placée pour le faire parce que j'ai déjà une petite communauté. Les marques il y a 12 ans étaient très en demande de nouvelles façons de communiquer, d'être présente sur les blogs, etc. Donc voilà, c'était
Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils se lancent qui ont une idée. Mais je trouve que ce qu'il y a de particulièrement intéressant dans ton cas, c'est que non seulement tu avais l'idée, mais tu avais réfléchi à tes avantages comparatifs, ouais, quoi, compétitifs, on va dire. Et ce qui est en fait assez rare, mais ce qui aussi a fait, je pense, quand même beaucoup le succès de Jolibox au départ. Parce que c'est vrai que si vous n'aviez pas eu votre communauté, on le sait, il y a quand même beaucoup de boîtes qui se sont lancées assez rapprochés dans le temps à ce moment-là. Et vous, moi, je me rappelle parce qu'on a lancé Gemio à peu près en même temps, en 2011, vous avez été très, très rapide, mais vraiment, c'était impressionnant. Je me rappelle, c'était le cas d'école, quoi. C'était Jolibox, vraiment l'explosion. Et je pense que c'est quand même beaucoup lié aussi à ta communauté qui était déjà existante. Ça, cette notion de rapidité, c'était quelque chose que vous avez réfléchi et que vous aviez envie de mettre en place. Et pourquoi ?
Oui, c'était clairement voulu. Parce que je pense qu'une fois qu'on avait repéré Birchbox et qu'on voyait aussi l'essor de Birchbox aux US qui a aussi été assez rapide, on s'est dit forcément on n'est pas les seuls à les avoir vus.
Ouais.
Et forcément, comme le concept est nouveau, c'est toujours plus impactant quand t'es le premier. Oui, quoi. Donc oui, il y avait cette volonté de se dire alors on fait les choses très bien, mais on essaye de les faire très vite pour être les premiers. Et comme tu dis, ça n'a pas loupé. Il y a eu beaucoup de concurrents qui sont lancés dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Mais le fait d'être les premiers fait que c'était toujours dit dans la presse. Ça reste dans l'esprit des gens. C'est important. Ça donne une petite longueur d'avance. Bon, après, il faut la consolider et ça fait pas tout. Mais c'est vrai que c'était important. Et puis, c'était un peu ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que un moment, quand tu as une idée, alors bien sûr, il faut prendre le temps de réfléchir, bien comprendre le business, faire ton business plan, mais il y a un moment aussi, il faut y aller. Et donc là, encore une fois, je pense que l'insouciance de la jeunesse fait qu'on s'est dit, on était tous en stage ou en premier job, on le fait, on le lance, on bossait jusqu'à 4 heures du mat tous les soirs, mais on trouvait ça génial, on était super excités, je recevais tous mes produits de beauté au L, je les mettais sous le bureau, je disais, c'est des concours pour le blog. mais c'était génial. Franchement, j'ai adoré ce moment, et clairement, on l'aurait pas fait, ou alors on l'aurait fait, mais pas dans les mêmes timings, s'il n'y avait pas eu la communauté de la vie en blonde. En fait, c'était, encore une fois, c'était une sorte d'assurance d'avoir nos premières clientes sans avoir à dépenser d'argent ou de budget marketing. Et les marques, il y avait un temps pour les convaincre qui était... en gros, j'avais juste un mail à mettre. Oui, est-ce que tu peux me donner 50 produits? En général, c'était oui, parce qu'on se connaissait déjà. J'avais pas besoin de tout pitcher. Et il y avait cet effet nouveauté qui les excitait complètement.
Oui, bien sûr.
Bon, après, les choses se sont corsées, mais...
Alors justement, les choses se sont corsées, vous avez eu un peu de concurrence, mais c'est normal parce que c'était une aventure. Il y a eu un nombre de box à un moment donné, je me rappelle, c'était l'ébullition, mais c'était délirant. Tu dirais que quels ont été, au-delà de ta communauté, vos avantages compétitifs à l'époque, et qu'est-ce qui fait que quand même, c'est vous que Birchbox a racheté, et c'est vous qui avez été quand même le succès, en tout cas en France, clairement, au sein du nombre incalculable de box qui étaient lancés.
Je pense que ce qui a clairement fait la différence, on en parlait, il y a l'équipe déjà, le fait, et même les investisseurs nous l'ont dit, au-delà d'investir dans une idée, on investit aussi dans une équipe. Donc certes, on était nombreux, mais notre complémentarité a fait qu'on a une rapidité d'exécution et je pense une qualité aussi d'exécution. On était très bons chacun dans nos domaines et ça nous a permis de dérouler un super plan de com, un super packaging. L'expérience était top. Et ça, clairement, ça fait la différence parce que nous, le focus premier, c'était vraiment l'expérience de la cliente et être sûr que elle soit contente. Clairement, je pense que c'est ça qui nous a démarqué et c'était une de nos forces. Ce côté, à la fois, on n'avait pas envie de passer pour le petit truc français trop fait maison, et en même temps, c'était une vraie. Je pense qu'il y avait une vraie comment dire, par rapport aux concurrents qui ont pu arriver après, qui étaient des plus grosses boîtes, des plus grosses choses.
On peut quand même en parler. Il y a eu des boîtes, notamment donc Glossybox, pour ne pas les citer, etc., qui sont des entreprises, pour ceux qui connaissent, qui sont comment dire, fundées, donc financées par un fonds qui s'appelle Rocket Internet, qui a énormément de moyens. Je peux imaginer, quand vous les voyez débarquer sur la place, vous êtes quand même pas hyper à l'aise.
Oui, mais pour la petite histoire, c'est très marrant parce que Rocket, en fait, ils m'ont contacté quand j'ai annoncé sur mon blog que je lançais Jolibox. J'ai une charmante dame allemande qui m'a envoyé un mail pour savoir si on pouvait se rencontrer dans un petit café.
C'est drôle.
Donc j'avoue que mon cœur il a un peu palpité. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle me veut. Et donc on s'est rencontrés et puis elle m'a dit très clairement, écoutez, nous on lance Glossybox. Donc elle m'annonce 15 jours après nous le lancement de Jolibox. Donc, vous feriez mieux de faire
des boutiques. Quoi.
Oui, voilà, d'arrêter et puis de nous rejoindre. Enfin, voilà, c'était un peu un message comme ça, à la fois pas menaçant, mais un petit peu, on va vous faire peur, on arrive avec des millions, etc.
Ils ont pas la réputation d'être extrêmement.
Extrêmement, exact. Bon, je te confirme. Et du coup, c'était. Mais finalement, ça a eu l'effet complètement inverse sur nous. Ça nous a plutôt surstimulé en se disant, nous, je pense... Alors certes, ils avaient des millions, mais nous, on avait... Et pour répondre à ta question précédente, c'était ce qui a fait la différence, je pense, c'était la sincérité avec laquelle on faisait les choses et avec laquelle on s'adressait à notre cliente. Je pense que ça se ressentait dans la façon de parler, dans les mails, dans le packaging, dans tout, que finalement, les personnes derrière Jolibox, c'était des vraies personnes, des jeunes comme nos clientes, et que voilà, tout ce qu'on faisait, on le faisait avec le cœur. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça se voit. Et quand on fait les choses avec conviction et avec je pense avec vraiment de l'émotion, ça se ressent et ça fait la différence.
On parlait tout à l'heure un peu de l'association et du coup que c'était aussi une de vos forces, donc d'être 5 associés. Je me posais quand même une question, c'est est-ce que ça fait un peu peur peut-être, notamment à des fonds, quand vous êtes arrivés, que vous étiez 5, parce que c'est quand même assez peu commun. Et on peut se dire, concrètement, ils se sont répartis le capital. Si jamais ils ne sont pas tous d'accord, comment ça va se passer? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été pour toi... Avec la réflexion et le recul, maintenant, je comprends que donc tu l'as fait différemment dans le cadre de M, sans parler de regrets, parce qu'en tout cas, vu le succès de Birchbox et de Jolibox, je pense qu'il n'y a pas de regrets à avoir. Mais en termes de conseils, plutôt aux personnes qui nous écoutent, tu conseillerais à des personnes de faire ce que vous avez fait, c'est-à-dire vraiment se répartir et un peu siloter, entre guillemets, les rôles entre chaque personne, entre chaque compétence, ou au contraire, tu penses qu'il faut mieux peut-être être un tout petit peu plus lean en termes d'association?
Je pense que... comme tu dis, de toute façon, j'ai aucun regret et je suis très fière de la façon dont on a fait les choses. C'est certain que si j'ai pas fait la même chose pour M, c'est aussi pour une raison. Donc, certes, ça a été une des clés du succès. Je pense que c'est aussi plus compliqué, clairement, quand la boîte grandit, quand on est 5 associés. Et c'est vrai que tous les fonds d'investissement qu'on avait rencontrés nous avaient mis en garde en nous disant. Votre équipe est super, on croit en vous, vous avez des super talents, mais sachez que ce sera plus compliqué, surtout qu'effectivement on avait réparti le capital complètement par égal, il n'y avait personne qui sortait plus du lot. Donc c'est compliqué de je peux pas donner un conseil, faites la même chose, c'est juste il faut toujours avoir en tête, et même mon avocate elle me dit toujours ça, c'est au début quand tu crées une boîte, c'est un peu comme un mariage, tout est rose, tout va bien, il faut toujours penser à la période où potentiellement il y a un divorce où là c'est moins facile. Je pense que c'est important d'avoir tout ça en tête. C'est jamais plaisant de parler des choses négatives quand t'es dans une période d'euphorie, que tout va bien et que que tu t'entends super bien, que t'as envie de bien faire les choses. Il se peut qu'avec le succès ou quand il y a des moments plus compliqués dans une boîte, quand t'es nombreux, ça peut être plus dur. J'ai pas de leçons à donner ou de conseils particuliers. Je pense juste que il faut prendre la mesure de tout ça.
Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet dont on parle peu. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de questions d'auditeurs sur l'association. C'est pour ça que je me permettais de te poser la question. Et surtout, je trouvais hyper intéressant que tu aies autant shifté entre les deux expériences. Mais c'est vrai que je pense que ce que tu dis à l'instant est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse donner. C'est-à-dire, qu'en fait, il faut avoir la discussion difficile et il faut, bah, comme tu faire le contrat de mariage et pas juste se marier en communauté de biens.
Exactement. Parce que... Non, mais c'est très, très important.
C'est une
et c'est pas forcément, encore une fois, voilà, c'est pas forcément très agréable, mais c'est super important parce que ça facilite beaucoup de choses après.
C'est ça. Génial. T'en as parlé un petit peu en filigrane, mais pas trop. Je sais que c'est pas des sujets faciles, mais je pense que ça peut toujours aider les gens. Est-ce qu'il y a eu des erreurs ou des moments difficiles plutôt dans le cadre de Beachbox, pardon, dont tu pourrais me parler, où tu sens que vraiment ça t'a appris des choses et que tu t'es dit, ça, je ne le referai plus. Alors, peut-être sur l'association, mais je n'ai pas l'impression que c'était une erreur. C'est
non,
plus
non,
que c'était
pas
un choix
erreur.
Différent.
Oui, des erreurs, j'en ai fait plein. Je pense, le premier truc qui
ou même,
en tête...
même pas toi personnellement, mais vraiment au niveau de l'entreprise, des choses où vous sentez qu'en fait, ce n'était pas la bonne chose à faire ou des moments difficiles peut-être.
Ouais, je pense que si on parle au niveau de l'entreprise, mais c'est pareil, j'aime pas avoir de regrets et donc après, de toute façon, les erreurs, voilà, comme tu dis, t'en apprends et tu rebondis. Je pense qu'avec Jolibox, on a été très vite, peut-être parfois trop vite. Enfin, le fait d'avoir fusionné avec les Américains, en fait, c'est très dur parce que tu peux pas réécrire l'histoire, donc tu te dis bah oui, mais si on n'avait pas fusionné, on n'en serait pas arrivé là, etc. Donc
D'ailleurs, ceux qui n'ont pas fusionné, il n'y en a aucun qui est resté. Donc
voilà. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que parfois, il y avait une sorte de... Moi, j'ai eu l'impression, une sorte de course parfois aux chiffres, alors que ce soit aux chiffres en termes d'abonnés, en termes de levée de fonds, etc., qui te font un peu perdre de vue l'essentiel, finalement, qui est ton produit, ta cliente. Et qui, moi... En plus, comme c'est mon cœur de métier, tout ce qui est l'expérience cliente, la communication, le lien avec elle, parfois pour moi ça crée une grosse frustration de me dire que le niveau d'expérience n'était pas à la hauteur de moi ce que j'attendais et de l'image que je me faisais de ma boîte. Et le fait de en plus avoir fusionné avec une boîte qui finalement n'était pas la mienne et c'était pas même sur des choses très basiques c'était pas mes goûts en termes de branding etc. Fait que forcément ça rend le job plus dur tu vois parce que tu t'es à la fois l'image de quelque chose et en même temps c'est pas non plus complètement toi donc parfois j'ai l'impression d'être un peu schizo tu vois j'ai
C'est souvent le discours des personnes qui se font racheter c'est qu'en fait tu sais qu'à la fois, c'est super positif parce que ça apporte l'entreprise, etc. Donc, tu peux pas, comme tu dis, avoir de regrets. Mais d'un autre côté, en tant que fondateur, c'est super dur parce que c'est plus tout à fait toi.
Tu fais une croix sur une partie de... Voilà, c'est plus tout à fait toi, c'est ça. Donc voilà, après, ce que je te dis, c'est on n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait sans ça. Mais après, des erreurs, je pense que c'est aussi... C'est à la fois en personnel et sur l'entreprise. Il y a un truc qui est toujours très dur, moi, je trouve, c'est tout ce qui est management et recrutement. Alors forcément, je pense que toutes les boîtes font des erreurs de recrutement. Trouve que c'est très, très dur de juger quelqu'un sur un entretien de 30 minutes, même si tu le vois trois fois. Tant qu'au final, tu le vois pas au quotidien. C'est un peu comme dans un mariage, encore une fois, mais tant que tu ne vis pas au quotidien ensemble, c'est compliqué de te rendre compte. Et donc ça, moi, j'ai toujours trouvé ça assez compliqué. Surtout, je pense, le fait d'être très jeune aussi, encore une fois à l'époque, de devoir manager des gens. Je sais que j'ai fait plein d'erreurs parce que
plus
j'étais...
Plus âgé que toi, parfois, j'imagine.
Comment ?
Parfois plus âgé que toi,
oui,
en plus.
Oui, parfois plus âgé et qui, eux, avaient une expérience de management et que moi, finalement, en plus, en étant pigiste, j'avais pas spécialement eu une expérience de management. Donc, j'avoue que là, j'ai toujours trouvé ça compliqué et même encore aujourd'hui, c'est pas du tout ma partie favorite. J'ai fait un peu de coaching, je me suis améliorée. Mais c'est pas quelque chose qui est très inné chez moi.
En plus, tu as l'air d'être quelqu'un, comme tu dis, d'assez déterminé, qui sait ce que tu veux.
Voilà.
Et c'est ce type de personnalité, en général, qui n'est pas facile, parce que je suis un peu comme ça aussi. En gros, tu as ta vision, tu veux faire les choses toi-même, et c'est très dur de déléguer, et c'est très dur d'attendre que la personne soit formée.
Très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, je trouve que c'est très dur de... Mais il le faut, Donc, je me suis toujours fait violence et tout, mais parfois... Je trouve que c'est compliqué en fait et il y a des gens qui adorent ça et je trouve qu'ils sont super bons et ils sont très très bons pour je parlais avec Fanny Moisan de Vestiaire Collectif et qui elle me disait que elle aime ça elle trouve que c'est un peu comme le fait d'être maman et donc t'es là pour t'as tes petits poussins et puis tu les élèves et tout Bon, j'avoue que moi, alors pourtant, j'adore être maman, je suis complètement gaga de mes enfants, alors j'adore le faire avec mes enfants, mais je suis pas du tout pareille avec...
Je comprends. Mais du coup, est-ce que tu le sais, du coup ?
Moi, je le sais.
C'est déjà vachement bien comme étape. Et est-ce que du coup, tu agis en fonction, c'est-à-dire soit tu essaies de progresser, soit plutôt tu t'entoures de personnes qui le font bien à ta place ?
Oui, mais alors du coup, tu vois par exemple là pour M, alors bah du coup chez Birchbox, c'est un peu ce que j'ai fait, c'est comme en plus on était bien plus gros, ça m'a permis de recruter et à chaque fois j'ai recruté voilà, notamment une fille qui était géniale pour manager et ça c'était hyper agréable parce que comme ça j'avais elle en direct et elle ensuite elle manageait l'équipe et alors ça je trouvais ça très confortable et pour moi c'était super. Et là pour M, dans la configuration où on bosse avec des freelances, ce que j'aime avec des freelances, c'est que en général, c'est des personnes qui sont elles-mêmes assez autonomes et qui donc finalement ont un peu le même fonctionnement. Et ça me va très bien en fait. Moi, j'ai besoin de bosser avec des gens qui soient très efficaces, autonomes, où t'as pas trop besoin de les prendre par la main.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Donc oui, j'ai conscience de mes défauts. Mais ce qui fait que j'essaie de m'organiser en fonction de
top.
Ça.
Alors justement, pour parler un peu d'organisation, est-ce qu'il y a des outils que tu utilises au quotidien hyper régulièrement qui te font gagner beaucoup de temps dans le cadre de M, ou ça pouvait être à l'époque avec Jolibox, ça peut être n'importe quoi hein.
Non, alors pourtant c'est pas faute chez Birchbox, ils nous ont mis en place plein d'outils, des trucs, mais qui finalement moi je trouve compliquent encore plus le truc parce que tu te retrouves, alors que moi je fonctionne très bien avec genre mon calendrier Google sur sur mon iPhone, mais alors eux, ça te rajoute des applis, des trucs avec des notifications, des dates à entrer. Donc non, j'avoue que moi c'est très très simple, je fonctionne avec Notes, mon calendrier. Voilà, beaucoup d'un. Je fonctionne beaucoup moi avec des to-do list en fait.
D'accord.
Donc, franchement, à l'ancienne, j'ai mon cahier Moleskine, je mets ma to-do, la date, et ouais, j'aime bien rayer, et j'ai un sentiment de joie quand je raye des trucs et tout. Et je sais pas, comme je fonctionne très visuellement, ça me permet de mieux juger ce qui me reste à faire sur la journée, la semaine. Donc, non, j'ai pas de
d'outils miracles. Un bon vieux cahier, ça fait le job.
Bah ouais, un bon vieux cahier avec et un calendrier partagé, tu vois, avec François. Ouais. Même chez Birchbox, on avait ça. Calendrier partagé, comme ça permet de, ça veut pas dire que tu mets tous tes trucs perso, mais juste de savoir quand l'autre est dispo ou pas. Et ça, c'est pratique.
Une question quand même aussi, j'ai des mails aussi parce que je peux imaginer que tu en reçois beaucoup, puisque entre à l'époque, donc Birchbox, tu dois en recevoir beaucoup avec le blog aussi.
Ouais.
Bon, toi, en plus, tu as tout ce qui est Instagram, etc. Donc, tu es quand même, je pense, assez sollicité. Oui. Comment est-ce que tu gères ce flux entrant permanent de personnes qui te sollicitent ? Parce que tu vois, j'aime à dire souvent que c'est assez marrant, mais souvent, les personnes les plus sollicitées répondent le plus vite. Toi, tu m'as répondu, par exemple, assez rapidement. Je pense que c'est aussi que tu as dû mettre en place, tu vois, des petits process ou que tu fais attention. Mais comment tu gères, justement, tout ça ?
Alors, peut-être que des personnes qui vont nous écouter vont dire que je réponds pas du tout rapidement, parce que pour le coup, j'avoue que je reçois une quantité de mails incroyable. Et en plus, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'intérêt, en fait. Notamment sur le blog, je suis contactée pour des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais. Donc, j'avoue que quand j'ouvre ma boîte mail le matin, en fait, je scanne, tu vois, visuellement, je repère les noms et il y en a beaucoup qui partent à la poubelle.
Pas,
en fait, je prends même pas le temps de répondre. Chose que je faisais pas il y a 5 ans. Hein. 5 ans, je répondais à tout le monde,
Invitations. Je comprends, il y a un peu des mythes de, par exemple, je passe au courant Xavier Niel qui répond à tous ses mails alors qu'il reçoit 400 mails par jour.
Ouais.
Mais parfois, je me dis un peu, à la fois, c'est formidable et ça montre à quel point tu as de l'intérêt pour le monde alentour. Mais d'un autre côté, c'est aussi un temps monstrueux.
Ah non, c'est chronophage. Fait. Parce qu'en plus des mails, moi, ce qui me prend le plus de temps, c'est les messages privés sur Instagram.
Ouais.
Et ça, c'est... je ne saurais pas quantifier, parce qu'en plus, comme je trouve que l'outil est très mal fait, je ne saurais pas quantifier combien je reçois, mais c'est incroyable. Et en plus, il y a le compte Instagram M maintenant.
Bien sûr.
Donc écoute, j'avoue qu'en fait, alors c'est pas forcément très sympa pour tout le monde, mais je priorise, je réponds, je vais à l'essentiel, je réponds quand je trouve que je peux apporter une réponse, si c'est une invitation, je réponds. Voilà, franchement, j'essaie de faire au mieux. Par contre, je veux que chaque soir, je veux me coucher avec ma boîte mail vide, avec rangée dans mes petits onglets. Enfin, tu vois ça.
Ça c'est pas mal.
Parce que sinon, je trouve que, en fait, ça s'accumule. Ouais. Donc voilà.
Génial. Et mail, je comprends, tu peux pas forcément répondre à tout. Au niveau des sollicitations aussi, pareil, tu dois être assez sollicité pour des événements, des talks, des podcasts. et là, pareil, en fait, est-ce que t'arrives facilement à dire non? Parce que je peux imaginer que t'es obligée.
Ouais, j'arrive beaucoup plus facilement à dire non qu'avant. Ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pendant très longtemps eu le syndrome de la bonne élève, dire oui à tout le monde, faire plaisir à tout le monde. J'osais vraiment pas
dire
non. Puis
après, tu te retrouves du coup à annuler le truc à la dernière minute.
Exactement. Exactement. Soit tu te retrouves à annuler à la dernière minute, soit tu te retrouves à y aller, mais en fait, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais dû dire non. Donc, en fait, j'avoue que, et puis même, ça m'a beaucoup aidé aussi le fait d'avoir les enfants. Ça t'aide à prioriser. Tu dis, bah non, le soir, j'ai les enfants, donc maintenant je rentre, je dis non à tel cocktail. Alors, pendant un moment, je me disais, ah bah mince, je suis pas assez, je construis pas assez mon réseau, je suis pas assez sociale, je rencontre pas assez de gens. Bon, écoute, je me dis, finalement, c'est pareil, je priorise. Donc après, je fais beaucoup de petits déjeuners, les gens savent que j'habite à Reims. Donc le soir, en général, je dis toujours non aux invitations. Et après, pareil, les demandes de sollicitations pour les interviews, les podcasts, je fais énormément de tri. Parce que je pense que ça sert à rien non plus que j'aille raconter la même chose 50 fois. Les gens, au bout d'un moment, ils vont saturer. Donc c'est pareil, ce que je te dis, oui, je fonctionne beaucoup au coup de cœur, à l'instinct. Ce que j'ai envie de faire, je le fais. Après, voilà, malheureusement. Et c'est pareil aussi, je suis très sollicitée par des jeunes entrepreneurs qui me demandent d'aller prendre un café, des conseils. Alors je l'ai fait, je l'ai beaucoup fait, je le fais un peu moins, surtout que là je trouve que je suis dans une phase où moi-même, alors oui, certes j'ai eu Jolibox, Birchbox, mais là M, j'en suis encore qu'au tout début, et donc moi-même j'ai pas du tout la réponse aux trois quarts des questions qu'on me pose, je suis exactement dans le même process que plein d'entrepreneurs. Donc voilà, j'avoue que
c'est plutôt rassurant d'ailleurs quand tu le dis, tu vois que malgré, donc je sais que le mot succès tu l'aimes pas trop et moi non plus, mais malgré ce que t'as fait par le passé, cette nouvelle aventure qui pourtant fonctionne déjà très bien et qui a l'air d'être vraiment pensée et faire sens pour toi, c'est quand même un peu stressant, fatigant.
C'est plein d'inconnus, c'est différent, donc en fait il y a toutes les questions que n'importe quel entrepreneur se pose, je suis complètement dedans, je suis en train de me les poser, c'est vraiment les montagnes russes. Donc j'avoue que de prendre de l'énergie pour en plus aller rassurer d'autres entrepreneurs, c'est au bout d'un moment je peux pas en fait. Donc je préfère dire non et voilà après.
Super. Voilà. Pour terminer, j'aime bien terminer par des petites questions un petit peu plus perso et conseils, méthodos, etc. Donc, si on parle justement un peu plus de ton organisation personnelle, comme tu habites à Reims, c'est d'autant plus intéressant. Mais est-ce que tu peux déjà me raconter un peu quelle est ta journée type maintenant, par exemple, que tu es chez M? Alors, je peux imaginer qu'en fonction des jours, c'est pas pareil, parce que tu as des jours où tu es à Paris, tu as des jours où tu es à Reims, mais justement que tu me donnes un peu une vision un peu globale, on va dire, de ta semaine type.
Ouais, une journée type, effectivement, la journée type, quand je vais à Paris, c'est je prends mon train à 8h, j'arrive à Paris vers 8h30, et en général, avec François, on se retrouve, ce que je te disais, on travaille à Hoxton, on n'a pas de bureau, mais c'est très agréable, donc voilà, on bosse à la fois tous les deux, on fait pas mal de rendez-vous, les rendez-vous de... très très simple avec un comptable, la plateforme logistique, on rencontre d'autres entrepreneurs, voilà, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est que nos freelances, les journées à la fois se ressemblent parce que finalement il y a un rythme, et surtout le fait moi de prendre le train, ça me rythme aussi ma journée, et en même temps ça se ressemble pas du tout parce qu'il y a toujours un truc nouveau à régler, un nouveau problème, un truc, donc voilà, mais finalement les journées sont assez condensées, et comme je te disais, comme le soir il se passe beaucoup de choses dans le monde entrepreneuriat, mais c'est vrai que moi j'y participe pas tellement, j'essaye de faire pas mal de déjeuners, en tout cas quand je suis à Paris, pour prendre le temps d'aller rencontrer d'autres femmes entrepreneurs. On se suit depuis longtemps sur Instagram et on s'est jamais rencontrés, ce genre de choses, je trouve que c'est toujours agréable. Et encore une fois, faut pas oublier que même parfois les gens ont l'impression que je sais tout, que je connais tout, que j'ai tout vu, mais en fait non, pas du tout. Moi aussi ça me rassure de parler avec d'autres entrepreneurs, de voir qu'ils ont un peu les mêmes galères, les mêmes doutes, donc à chaque fois ça me fait du bien. Et puis parfois quand je suis après, j'essaie de caler du sport aussi dans ma journée, parce que ça me fait aussi beaucoup de bien. Je fais du bar shape.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un mix de pilates, danse classique, fitness. C'est assez cardio. Et la prof est géniale. Les profs sont géniales. Et ça me fait du bien, en fait. J'ai plein d'idées, en fait, quand je vais au sport et tout. À la fois, ça me vide la tête et en même temps, ça me.
Ça te rend plus créative.
Voilà. Donc voilà un petit peu une journée type à Paris, et après une journée type à Reims. J'emmène mes enfants à l'école, et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait je gagne tout le temps de transport, donc je suis devant mon ordi beaucoup plus tôt. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué, quand je suis à Reims, en général je me mets dans mon bureau et j'ai l'impression que j'en sors pas de la journée, en fait. Je fais moins de temps de pause que quand je suis à Paris, où justement je vais rencontrer quelqu'un, faire un rendez-vous, etc. Non, à Reims c'est une journée non-stop.
C'est plus travail de fond, et à Paris c'est plus mais c'est pas mal, je trouve, d'avoir ton temps vraiment réparti, quoi.
Ce qui fait qu'à Reims ça me laisse le temps pour traiter aussi tout ce qui est plus administratif, parce que voilà, il y a aussi plein de choses moins sympa quand tu crées ta boîte, mais qu'il faut gérer. Donc j'aime bien, ça me permet de vraiment trier tous mes mails, tout traiter, etc. Et à Paris, donc écoute, pour le moment ça fonctionne bien comme ça. Et puis surtout, ce qui est très agréable quand je suis à Reims, ça me permet de déjeuner avec mon mari, me permet de, tu vois, c'est un rythme qui est complètement différent, de faire des trucs, des machines, enfin des trucs très concrets, mais que finalement comme ça t'es moins speed. Le reste du temps.
Tu te lèves plutôt tôt le matin ou
Oui, je me lève tôt. J'ai toujours été une lève-tôt, même quand j'étais enfant, tu vois, même mes copines, elles ne voulaient pas venir dormir parce qu'elles savaient que j'allais me lever super tôt.
Elles
ne
voulaient pas venir dormir.
J'ai jamais fait de grasse mat. Mais ça, je tenais ça de mes parents. Ma mère qui m'a toujours dit, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Elle tenait ça de son père. Donc écoute, moi, je me lève entre 6h et 6h30.
Ah oui.
De manière très naturelle, en fait. Souvent, je me réveille avant mon réveil.
En même temps, c'était l'habitude.
Et je suis quelqu'un du matin. En fait, j'aime bien ce sentiment d'avoir le temps de faire plein de choses. Exactement. Je t'avoue que maintenant
avec
que j'ai des enfants, quoique il y a des gens qui ont des enfants qui me disent « Oh, nous, ils ont dormi jusqu'à 9h30. » Je fais « Quoi ?» Tu vas se lever à 7h. Donc, de toute façon, à 7h, on est trop contents. C'est méga grasse mat. Et c'est là où, tout à l'heure, je disais, avec François, on n'est pas du tout pareil. François, il a plus tendance à... Il est plutôt du soir.
Il y a toujours quelqu'un d'opérationnel chez M, du coup.
Bah voilà, c'est très bien, tu vois. Notre service client, elle est à New York et tout, donc c'est parfait. On est toujours dispo.
Génial. Et une question que j'aime bien poser aussi, parce qu'il y a toujours un peu le mythe de l'entrepreneur qui ne dort pas, et tu parlais un peu des soirées à 4h du mat au début de Jollybox. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin quand même de beaucoup de sommeil, ou non, en fait, le mythe à la vie dure, notamment dans cette phase de lancement, t'es plutôt en mode « je travaille à fond tout le temps ».
Alors, tu vois, pour le coup, pour M, on n'a pas du tout eu, parce que je trouve que c'est pas très sain. Alors, effectivement, on l'a fait pour Jollybox, mais bon, c'était pas non plus toutes les nuits, mais on a eu effectivement ce côté nuit blanche. Pour M, je pense que, je sais pas, avec la maturité, le fait d'être organisé, tu te rends compte que t'as pas non plus besoin d'être sur le pont à 24/24. Donc non, moi j'ai besoin de dormir, et puis sinon je tiendrai pas. Mais par contre, j'ai une routine. Tu vois, je me couche rarement après 22h, 22h30, parce que je me lève à 6h.
C'est ça.
Et donc voilà, il y a pas de secret. Oui, si je me coucher tous les soirs à 1h du mat, ça serait un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est une hygiène de vie, et c'est pour moi c'est assez naturel. Et je pense que c'est quand même un petit peu un mythe, ce truc de l'entrepreneur qui prend pas de vacances, ne dort pas. Par contre, ce qui n'est pas un mythe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, moi je bosse tout le temps.
Ouais,
en fait.
C'est ça.
Par contre, oui, en vacances, enfin, je peux pas couper complètement.
En plus, avec
mon téléphone.
Le blog, t'es un peu en permanence connecté.
Les réseaux sociaux, mais c'est... Et parfois les gens me disent « Ah, mais t'as pas envie de couper un peu ?» Mais en fait, je sais pas, ça fait partie de ce que je fais, ça fait partie de mon activité. J'arrive à, je sais pas...
Compartimenter,
exactement. Voilà, pour moi,
c'est ça. Et tu as déjà, quand même, depuis que le début de ta carrière, finalement, coupé à un moment donné, vraiment. C'est-à-dire, tu réponds à aucun message sur Insta, tu réponds pas à tes mails, t'es off, t'es en vacances, je sais pas. Il y a des moments, bon, à part la nuit, bien sûr.
Mais... Écoute, j'avoue que je pense que la seule fois où je l'ai fait, c'est à mon dernier congé maternité, donc le troisième. Où là, Birchbox était à un stade où ça roulait assez bien. Et je me suis dit, en plus, ça tombait sur la période de l'été des vacances. Et donc, je crois que c'est vraiment la seule et unique période où j'ai pas répondu aux mails. Par contre, je les regardais. Ouais. Je crois que j'ai trop de mal à... C'est vraiment...
Par contre, je les regardais. Petite addiction collective au téléphone.
Mais par contre, les réseaux sociaux, j'ai jamais fait une détox digitale. Mais parce que j'en ressens pas non plus le besoin. En fait, je trouve que ce côté détox digital, c'est un peu un truc, un peu,
bah, je pense qu'en fait, il faut moment, le sentir c'est... si tu sens que t'en as besoin.
Oui,
parce
en fait, moi, c'est juste que si j'ai pas envie de poster, je poste pas. Oui. Si je poste pas pendant 3 jours, les gens sont pas, comme j'ai pas non plus l'habitude de, je raconte pas non plus toute ma vie, tu vois, je parle jamais de mes enfants, je parle pas à mes enfants, mon mari. Donc, finalement, les gens savent que, notamment mes réseaux sociaux, c'est à la fois très spontané et naturel, mais c'est aussi juste une façade de moi.
Tu gardes ton jardin secret aussi.
Voilà. Donc, en fait, si j'ai pas envie de poster, si j'ai rien à raconter, je raconte rien, donc.
Ça marche, génial. Deux dernières questions, podcast évidemment, parce que je sais que tu en écoutes beaucoup, notamment dans le train. Qu'est-ce que tu écoutes, au-delà du gratin bien sûr, comme podcast?
Qu'est-ce que j'écoute beaucoup de... Je pense 90% de ma liste de podcasts est entrepreneuriat.
Ouais. Plutôt américain ou français?
Plutôt américain, c'est ce que j'allais dire.
Moi aussi, pour être honnête.
Bah écoute, ouais. C'est pas du tout parce que j'ai pas envie d'écouter des Français, hein, c'est juste que finalement je trouve qu'ils sont aussi très bons en podcast, en interview, en personnalité, en rythme, etc. Donc j'aime beaucoup How I Built This.
J'adore la voix de Guy Raz, je recommande à tout le monde
et alors,
de l'écouter.
Ah oui, fantastique. Et alors, en plus j'ai découvert son visage il y a pas très longtemps et c'est marrant parce que ça fait 1 an et demi que je l'écoute mais je ne l'imaginais pas comme ça.
Moi aussi donc, je le suis sur Instagram depuis pas très longtemps, il a une petite tête trop mignonne.
Bah oui,
quoi.
Et je le voyais pas du tout comme ça. J'imaginais un homme plus âgé et tout. Ouais. Donc, ça me le rend encore plus sympathique. Donc, voilà, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le podcast de Business of Fashion. Mm-hmm. J'aime beaucoup un podcast qui s'appelle le Glossy Podcast. Alors,
d'accord.
Le nom est...
Qui est sur la beauté, donc.
Alors, et qui n'est pas que beauté, c'est intéressant. C'est entrepreneur, le monde beauté, fashion. Il est très bien. J'aime bien le podcast Second Life.
Ah, je le connais pas.
Et qui est intéressant parce que c'est un peu ce dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est sur. Alors, c'est que des femmes et qui ont eu une vie et ensuite une seconde vie entrepreneuriale. Et donc, c'est intéressant. C'est de,
ah, ok, bah, j'écouterai ça.
Donc, voilà.
C'est
ça qui vient. Et en français, alors pas du tout entrepreneuriat, mais c'est affaires sensibles.
Ah ouais, c'est très très rigolo. Enfin, rigolo, non, mais c'est intéressant.
Ah ouais. Ça passe de. Enfin, il y a un peu tous les sujets, à la fois politique, à la fois du fait divers et tout. Et c'est pareil, je trouve que sa voix, elle est juste captivante et tout. Donc, ça, j'aime beaucoup.
Génial. Et du coup, ma dernière question, toujours sur la thématique des recommandations, c'est sur les livres. Je te l'avais dit, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a pour toi des livres qui ont, je dirais pas changé ta vie, mais qui vraiment t'ont marqué, que tu as envie de partager, qui sont des livres, que ça soit littéraire, toi qui es un peu littéraire, enfin même assez littéraire. Ça peut être business, ça peut être entrepreneurial, ça peut être ce que tu veux, voilà, que tu as envie de recommander.
Alors, oui, c'est vrai que c'est toujours la question piège. Tu sais, les livres, tu dis, ah mince,
pas
qu'est-ce
piège,
que, qu'est-ce
c'est
que
pas
j'ai
facile.
Dit là? Non, mais là, alors, j'ai pas spécialement de livres sur l'entrepreneuriat qui m'ont aidé. Par contre, il y a une petite collection que j'adore, que j'achète sur Amazon, et donc le nom va m'échapper. C'est des petits livres très courts. Et en fait, c'est en anglais et c'est sur des thématiques sur. Il faudra que je te retrouve le nom et peut-être tu pourras le mettre dans la barre d'infos. Je crois que c'est des how-to. Et en fait, c'est sur comment construire une image de marque.
D'accord.
Comment,
c'est intéressant ça.
Et c'est hyper intéressant. C'est vraiment très facile à lire. Je crois que j'en dois avoir au moins 10. Et ils sont top.
Génial,
que je te retrouve
concis, droit au
oui,
but.
Voilà.
Et...
Bon, alors après, c'est en anglais. Je suis pas sûre qu'ils existent en français, mais voilà, si on maîtrise un peu l'anglais, c'est
je ferai mes recherches et puis si jamais je trouve pas, je te demanderai, je les mettrai dans les notes.
Et après, sinon, rien à voir, mais un livre qui m'a beaucoup touchée récemment, c'est « Avec toutes mes sympathies » de Olivia de Lamberterie. Parce que alors c'est une journaliste du Elle, et en fait, c'est justement une journaliste qui travaillait au service littéraire du Elle, et qui donc s'est occupée de moi à mon tout premier stage au Elle. Donc c'est vrai que j'avais toujours eu, m'a toujours impressionnée. Et là, de lire, c'est une histoire très personnelle. Elle a perdu son frère il y a 3 ans, et c'est un très beau livre, c'est son premier livre, et il se lit très facilement, et franchement ça m'a touché en fait de découvrir
ça
un autre
ça parle de quoi exactement?
Ça parle en fait justement du suicide de son frère. Ouais. Qui a complètement chamboulé toute sa vie, et c'est vrai qu'en fait c'est une facette d'elle que je ne soupçonnais pas. Olivia de Lambertus, c'est une femme voilà, moi qui m'a toujours beaucoup impressionnée. Ouais. Elle, une très belle femme un peu bourgeoise, etc. Et là en fait en lisant ça, je me suis dit ah, j'imaginais pas du tout ça en fait de sa vie, et donc c'est vrai que je trouvais que c'était une chouette lecture.
Génial, je le mettrai dans les notes aussi du podcast. Merci beaucoup Mathilde. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un truc qu'on n'aurait pas évoqué, que tu as envie de partager avec nos auditeurs? T'es pas obligée.
Ça me fait toujours très plaisir, et je pense que juste le mot de la fin, c'est que on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais juste aussi de rappeler que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément une fin en soi, et c'est pas forcément fait pour tout le monde, et que vous n'avez pas raté votre vie si vous ne lancez pas votre boîte. Et je pense que c'est important de le rappeler
peut le dire, une petite mode en ce moment. Exactement. Et pour des personnes comme toi et moi où on s'est lancé à l'époque où c'était pas cool.
C'est ça.
En tout cas, beaucoup moins cool. On le voit avec du recul, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si t'es pas un entrepreneur sur LinkedIn, t'as un peu raté ta vie.
Mais donc je pense que c'est important de le rappeler, de juste dire qu'on peut être très heureux. Un boulot plus classique, traditionnel, et voilà.
Merci beaucoup Mathilde.
Merci Pauline. Dernière
question, excuse-moi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Évidemment, c'est facile, mais où est-ce qu'on peut te trouver pour les personnes qui cherchent à te contacter, même si on a compris que tu ne pouvais pas répondre à tout le monde sur le monde merveilleux du web?
Sur Instagram, c'est tout simplement Mathilde Lacombe.
Ça marche. Et puis sur ton blog quand même, accessoirement. Et bien sûr, je mettrai aussi en barre d'infos M. Bien sûr. Merci beaucoup Mathilde.
Merci Pauline.
Au revoir.
Hello à nouveau, et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas, j'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes, ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.